Donc moi, je vais vous parler de la recherche en éducation au Québec. Alors Québec, pays qui, enfin qui n'est pas un pays d'abord, province du Canada, qui est quand même une région intéressante parce que vraiment à la croisée du monde Europe francophone et puis continent américain. Alors bon, c'est sûr qu'avec l'usage du français, il se démarque volontiers, enfin il résiste volontiers à l'influence américaine. Et pourtant, en même temps, ils sont bien baignés dans l'American way of life. Donc voilà, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Alors bon, je vais vous faire une présentation peut-être un petit peu différente. Enfin, je vais essayer d'éviter les listes qui peuvent être un petit peu fatigantes et de commencer par une présentation du système éducatif au Québec, présentation rapide, mais parce que, bon, évidemment, dans le domaine de l'éducation, enfin des sciences de l'éducation, il y a une très très forte influence de la recherche sur, enfin, du système éducatif local sur la recherche. C'est aussi un moyen de voir quelques particularités donc qui influencent la recherche. Un petit tour sur l'enseignement des sciences de l'éducation à l'université, la formation des enseignants, et puis avant d'attaquer vraiment la recherche en éducation en tant que telle. Alors, bon, qu'est-ce qui est un petit peu particulier dans l'enseignement au Québec? Alors, bon, une éducation préscolaire qui est un petit peu tardive, enfin, et qui, de toute façon, n'est pas obligatoire. La maternelle commence à 5-6 ans. L'enseignement primaire qui dure un petit peu plus longtemps que chez nous. L'enseignement secondaire un peu plus court que chez nous. Et puis, ça, c'est l'originalité, c'est un enseignement intermédiaire entre le secondaire et le supérieur, qui est l'enseignement collégial, qui dispense soit des formations techniques courtes ou longues, soit une formation en 2 ans qui est pré-universitaire et qui prépare ensuite les étudiants qui vont continuer dans l'enseignement supérieur, avec là un baccalauréat qui est situé beaucoup plus... au terme d'un parcours d'un plus grand nombre d'années que chez nous, une maîtrise aussi qui est un petit peu au-dessus du master, et le doctorat, ben, encore au-delà. Une population scolaire d'environ 1 million de jeunes et qui atteint 1,5 million avec les étudiants. Bon, là, il y a un petit schéma donc de comparaison. Où on voit que le secondaire est plus court par rapport à notre système en France, mais qu'il y a ce niveau intermédiaire là du cégep, ce collège d'enseignement général et professionnel, qui fait des formations donc en 2 ou 3 ans au niveau technique. Donc le baccalauréat qui arrive quasiment au niveau du master 1 ou master 2 selon selon le type du baccalauréat, selon les disciplines, il se fait en 3 ou 4 ans. Et puis la maîtrise qui correspondrait plus ou moins à notre ancien DEA, et le doctorat qui va au-delà. Voilà. L'enseignement public, alors au niveau préscolaire et primaire, il est dispensé en français ou en anglais, ou dans les langues autochtones, parce qu'il y a pas mal de langues indiennes qui touchent des petites populations, mais on assure un enseignement dans la langue autochtone jusqu'au primaire, et puis ensuite c'est français ou anglais. Alors, pour le primaire et le secondaire, la langue normale, c'est le français. Non accès à l'enseignement en anglais que... les élèves qui remplissent des conditions bien particulières, d'avoir commencé une scolarité sur le territoire canadien en anglais, ou d'avoir un parent qui lui-même a suivi son primaire en anglais sur le territoire canadien. Ce qui fait que, en gros, une famille anglaise qui viendrait s'installer au Québec, les enfants vont suivre la scolarité en français en théorie. Par contre, au niveau collégial ou au niveau de l'enseignement supérieur, les étudiants ont la liberté de choisir leurs études en français ou en anglais. Alors, qui s'occupe de l'enseignement ? Donc, du préscolaire au secondaire, ce sont des commissions scolaires qui quadrillent le territoire du Québec. Il y a 72 commissions scolaires qui, elles-mêmes, regroupent un certain nombre d'écoles. Alors, la taille des commissions scolaires, géographiquement, on sait que la population est très concentrée autour du Saint-Laurent, mais que le territoire est vaste. Donc, les tailles des commissions scolaires sont très variables, de 700 à 70 000 élèves. 60 commissions francophones pour 9 anglophones. Donc, vous voyez un petit peu le rapport. Et puis, trois commissions mixtes qui sur des territoires excentrés où on a un village anglophone, une réserve indienne, un village anglophone, francophone, etc. Donc, alors, l'enseignement collégial, il est assuré par les cégep. C'est un mot que vous retrouverez souvent dans la littérature canadienne. Donc, c'est collège d'enseignement général et professionnel, où là, on a un petit peu plus de, enfin, une proportion un petit peu plus forte de cégep anglophone. Et puis, au niveau du supérieur, on a 11 universités, dont une université à distance, TELUC, et puis 5 écoles supérieures francophones pour 3 universités anglophones. Alors, la part du privé, bon, elle n'est pas très très importante, 6% en primaire, 18% en secondaire, 7% au niveau collégial, et puis 0% au niveau de l'enseignement supérieur. Cependant, l'enseignement supérieur est loin d'être gratuit. Enfin, c'est du public, mais public payant. Hein. Alors, la part du privé progresse un petit peu dans la plupart des régions. Et puis, comme on a vu que l'accès à l'enseignement en anglais et sur condition, il y a un certain nombre de parents qui choisissent le privé pour pouvoir scolariser leurs enfants en anglais, parce qu'ils estiment que ça leur donnera plus de possibilités. Alors, de toute façon, l'enseignement privé est subventionné entre 50 et 60% par le gouvernement canadien et le gouvernement de la province du Québec. Alors, le recrutement des enseignants se fait directement par les commissions scolaires ou les cégep. C'est-à-dire que, bon, on va le voir tout à l'heure, la formation des enseignants se réalise à l'université par l'obtention d'un baccalauréat spécial, puis, qui donne ensuite le droit à avoir une autorisation permanente d'enseigner. Et donc, après, les enseignants se mettent sur le marché, font leur candidature auprès des commissions scolaires. Alors, il y a eu une époque même où il y avait beaucoup trop d'enseignants, enfin, ce qui fait que l'insertion professionnelle des enseignants était très longue. Ils commençaient par des années de remplacement, de temps partiel, etc. Situation qui est en train de s'arranger un petit peu. Mais il n'y a pas du tout de nomination s'opérerait par le gouvernement. On a un taux d'encadrement par élève d'un enseignant pour une quinzaine d'élèves en primaire secondaire, pour une douzaine dans le niveau collégial. Un taux de réussite à la fin du secondaire qui avoisine 85%. Et un décrochage, un taux de décrochage scolaire entre 10 et 20%. Pour les élèves en âge de fin de secondaire ou d'âge collégial, avec quand même plus de garçons qui décrochent que de filles. Ce petit schéma, c'est un petit peu l'espérance scolaire de l'élève sur une population de 100 jeunes d'une même classe d'âge. On a 99 qui vont entrer en secondaire, 76 qui vont terminer le secondaire avec le diplôme de fin d'études secondaires, 40 qui vont avoir le diplôme d'études collégiales, 32 donc le baccalauréat, 9 la maîtrise, 1 le doctorat. Voilà, ça donne une petite idée de des parcours scolaires et de l'espérance scolaire. L'enseignement supérieur. Alors, en sciences de l'éducation, on observe depuis une dizaine d'années une baisse assez sensible des effectifs, puisque les étudiants en sciences de l'éducation représentaient 13,5% des étudiants en 1997, qui ne sont plus que 9% en 2007. Alors ça, c'est sans doute dû au fait que, justement, on a contingenté l'accès à la formation pour les enseignants, donc au baccalauréat spécial enseignement, pour justement éviter d'avoir une trop grande difficulté d'insertion professionnelle pour les enseignants. Ce sont des études qui sont extrêmement féminisées, 80% de femmes. On a environ 70% de femmes aussi parmi les enseignants. En doctorat, on observe là aussi une baisse des doctorants. Ils sont à peu près 600. J'ai mis en 2000, mais je pense... Pardon. C'est aujourd'hui, il y a environ 600 doctorants, donc 4% de la population des étudiants en doctorat, alors qu'ils étaient plus de 6% en 2000. Là encore, beaucoup de femmes. Et puis, fait aussi qu'on peut remarquer, c'est que, par exemple, à la différence de la France, on a de moins en moins de doctorants qui sont là en formation initiale. Ce sont, pour la plupart, des professionnels qui reprennent des études pour prolonger qui ont déjà fait en général un cycle de sciences de l'éducation pour devenir enseignants, et puis qui vont faire plus tard une reprise d'études pour faire un doctorat. Donc la formation des enseignants jusqu'à la fin des années 60, elle se déroulait en école normale, c'était une formation assez pratique, mais depuis les années 70, elle a été... les écoles normales ont fermé, la formation a été confiée aux facultés et aux départements d'éducation des universités. Donc c'est une formation en 4 ans qui débouche sur ce baccalauréat spécial et qui donne droit à l'autorisation d'enseigner, autorisation qui au début était pas permanente et qui maintenant l'est devenue. Donc pendant les années 70-80, la volonté était de rendre la formation des enseignants plus scientifique. Donc la contrepartie, c'est qu'il y avait moins de pratiques et ce défaut de pratique a été vraiment repéré comme une lacune. Donc au début des années 90, une importante réforme de la formation des maîtres a été introduite en deux paliers. D'abord, la réintroduction d'heures de formation pratique en milieu scolaire, donc qui se répartit crescendo au long des quatre années d'études. Et la dernière année, les étudiants assurent même des responsabilités de classe pendant plus de 2 mois. En pleine charge. Et puis le deuxième volet de la réforme de la formation qui est donc mis en place dans les départements d'éducation, c'est la prise en compte d'un nouveau référentiel de compétences pour les enseignants qui a été défini donc par le ministère. La formation continue des enseignants se réalise également à l'université. Voilà, on en vient à la recherche. Alors, quelques généralités sur la recherche scientifique au Québec. C'est une recherche qui est universitaire et qui est financée beaucoup par des contrats et un petit peu par des subventions. Alors, le Québec est vraiment dans une dynamique où il a beaucoup investi sur la recherche au cours des dernières années, puisque on a réussi à doubler le montant des financements pour la recherche entre 96 et 2006, avec un financement essentiel du gouvernement du Canada, des fonds privés pour un tiers, et puis une contribution de 22% du gouvernement du Québec. Et ces budgets suivent une croissance d'environ 5% par an. Alors, la recherche en éducation, là-dedans, c'est à peine 2% de la recherche générale au Québec, mais c'est-à-dire un budget de 23 millions de dollars canadiens, ce qui fait à peu près 15 millions d'euros. Alors, bon, les organismes subventionneurs, je ne vais pas tous les décrire, hein, c'est pour fixer un petit peu les idées. Vous les retrouverez sur le PowerPoint en PDF que vous pourrez récupérer. Bon, donc c'est différents fonds, Conseil canadien, enfin c'est quand même assez, en général des organismes publics qui peuvent recevoir des compléments de financement privés. Alors, où s'exerce la recherche en éducation ? Ben, en milieu universitaire exclusivement, à travers des centres de recherche qui sont plutôt des entités de plus grosse importance, qui sont en général interdisciplinaires, des laboratoires de recherche qui sont plus spécifiques et en général rattachés à une seule université. Et puis aussi, il y a une chose qui est un petit peu spécifique, c'est les chaires de recherche. Ce sont une espèce de pôle d'excellence, des petites unités de recherche organisées autour d'une personnalité éminente, de la recherche en éducation et orientée vers une thématique bien ciblée et qui donc... quelque part sont dispensés de concourir sur des contrats puisqu'ils ont droit à une... ces chaires ont droit à un subventionnement régulier pendant une période de 5 à 10 ans si la chaire est renouvelée, qui équivaut entre 65 000 et 130 000 euros par an. Alors, bon, les centres de recherche... il y en a, disons, 5 qui sont vraiment importants. Le premier, centre de recherche interuniversitaire, donc voilà, il a cette spécificité d'être interuniversitaire, même s'il est basé à l'Université de Montréal, sur la formation et la profession enseignante. Alors, ce petite parenthèse, le CRIFP a un site de veille absolument merveilleux qui est... un remarquable copier-coller des rubriques de veille de la veille scientifique de l'INRP, aux fautes de frappe près, c'est vraiment remarquable. oui, non mais ça ne dévalorise pas pour autant leur recherche. Donc le centre de recherche et d'intervention sur la réussite scolaire, qui est un gros centre à l'Université Laval, qui est assez actif, qui a créé un observatoire de la réussite scolaire, qui est un centre de ressources. Bon, le CRIEVAT, l'Université Laval, le CIRAD à l'Université du Québec à Montréal, à ne pas confondre avec l'Université de Montréal. Hein. Il y a toute une série d'universités qui sont Université du Québec à Montréal, à Chicoutimi, à Rimouski, etc. Et puis le Centre de recherche sur l'intervention éducative de l'Université de Sherbrooke. Alors, des ordres de grandeur, Le CRIF doit avoir entre 60 et 80 professeurs chercheurs. Le CRI 25, mais bon, pas mal d'enseignants associés. Bon, d'autres laboratoires, dont un qui est, à ma connaissance, au Québec, le seul laboratoire en éducation anglophone. Et bon, ben, il est vrai que ces laboratoires peuvent avoir aussi des collaborations sur des projets avec d'autres départements universitaires du Canada francophone. Hein. Il y a quelques régions comme l'Arcadie, etc. Bon, je passe. On peut remarquer ici quand même la présence de laboratoires de robotique, d'informatique cognitive. Les Québécois ont été assez pionniers dans la recherche pour les TICE. Enfin, ils ont commencé avec les didacticiens, etc. Ils sont assez à la pointe. Et maintenant, même, c'est une recherche qui est très très appliquée, hein, qui a suscité la création de sociétés commerciales qui fournissent des produits d'ingénierie éducative pour les commissions scolaires, etc. Alors, donc, les chaires de recherche dont j'expliquais le principe tout à l'heure, donc on a un certain nombre comme ça, avec des personnalités comme Claude Le Sarre, Thierry Carcenti, Yves Lenoir, qui sont des noms que vous avez peut-être déjà entendus ou déjà lus. Voilà. Quelques revues en éducation, une revue canadienne, donc une revue bilingue. Et puis la revue un petit peu majeure, c'est la revue des sciences de l'éducation, qui est vraiment l'organe de la communauté universitaire. Sinon, ce sont des revues qui sont prises en charge, enfin, qui sont animées par des associations ou vie pédagogique par le ministère. Alors, il y a donc le CRIRES, un de ces gros centres, qui a fabriqué un outil assez intéressant, qui est l'inventaire canadien des recherches subventionnées en éducation. Je voudrais juste faire un tout petit tour. C'est un outil vraiment assez remarquable, parce que on y retrouve absolument tous les projets de recherche, enfin toutes les recherches subventionné depuis 1990, avec absolument tous les détails sur chaque recherche. On a, voilà, le nom de la recherche, la période, le chercheur responsable, les chercheurs associés, etc. Jusqu'au montant au dollar près du financement. Donc c'est vraiment un outil assez impressionnant. À partir de ça, je me suis amusée à faire un petit comptage. Donc on voit que, alors, certaines recherches émargent à plusieurs thèmes, mais enfin, toutes les recherches sont classifiées dans une certaine typologie. Donc on voit que bon, bah, les recherches sur l'enseignement et l'apprentissage sont vraiment celles qui dominent. Des recherches sur les populations, les ordres d'enseignement, ce qu'ils appellent ordre d'enseignement, c'est le primaire, la formation des adultes, enfin des types de populations ou de types d'enseignement. Et puis bon, bah, les contextes sociaux, là on voit que c'est quand même ce qui est le moins... les domaines où il y a le moins de recherche. Bon, là, j'ai sélectionné à l'intérieur de ces grandes catégories les thématiques qui reviennent le plus souvent: pratiques pédagogiques, apprentissage et cognition, profession enseignante, etc. Alors, les tendances de la recherche, bon, ben, il y a comme sans doute Olivier vous l'a montré hier, c'est assez fort au Québec, cette opposition entre le courant positiviste et qui utilise des méthodes quantitatives, et le courant interprétatif qui recourt davantage aux méthodes qualitatives, qui s'est développé depuis les années 90 surtout. Alors, il y a des chercheurs là qui ont fait un travail à partir de tous les articles publiés dans la Revue des sciences de l'éducation depuis 1975 jusqu'à 2005. Ils ont réparti, ils ont classé tous ces articles selon quatre types. Les articles de synthèse, les articles qui reposent sur les méthodes quantitatives, des méthodes qualitatives ou bien qui combinent qualitatif et quantitatif. Et ça donne ça au niveau de la répartition de ces articles. Donc on voit que bah, finalement le quantitatif, il a mis un petit peu de temps à débarrer, mais là il suit une trajectoire en croissance. J'ai dit... Là je parle du qualitatif. Oui, je parle du qualitatif en bleu marine. Tandis que le quantitatif, ben, finalement, bon, il a connu un petit peu des hauts et des bas, mais il se maintient. Alors, les travaux de synthèse, bon, restent prégnants. Et puis, les multiméthodes, c'est quasiment... c'est très rare. Alors, un autre chercheur, Jean-Marie Vandenmaren... Lui propose une autre typologie des recherches, cette fois sur la nature des méthodes et des présupposés. Donc, il distingue la recherche évaluative et comparative. Enfin, il appelle ça processus produit dans la mesure où on s'intéresse aux performances, décrire les performances des systèmes et comparer les performances des systèmes et des curriculums. La recherche cognitive, donc une recherche scientifique fondamentale. La recherche appliquée qui vise à mettre au point des outils, tout ce qu'on a vu là sur les TICE. Une recherche herméneutique qui cherche à identifier les interactions éducatives au service de l'action des praticiens. Et puis la recherche pédagogique qu'il appelle clinique, qui est vraiment une collaboration avec des praticiens pour arriver à améliorer l'action sur le terrain. Et à qui bénéficient ces recherches? Eh bien, la recherche évaluative et comparative, c'est vraiment une recherche orientée décideurs, politiques. La recherche fondamentale, bon, bah, c'est une recherche utile pour les profs d'université, les concepteurs de matériel et de dispositifs d'enseignement. Recherche technologie appliquée, un petit peu pareil, même si elle sert un peu aux praticiens, aux formateurs. La recherche herméneutique, elle est plus orientée vers les formateurs et elle est récupérée dans les discours des politiques. Et enfin, la recherche clinique, destinée aux praticiens et formateurs. Or, quelles sont les recherches valorisées dans le monde universitaire? Eh bien, c'est la recherche évaluative et comparative parce que c'est elle qui permet d'obtenir des financements. Et puis aussi la recherche cognitive parce qu'elle peut déboucher sur la production de dispositifs technologiques. En revanche, la recherche herméneutique et clinique sont beaucoup moins représentées et d'ailleurs considérées comme très peu scientifiques en Amérique du Nord. Donc les postures du chercheur en éducation, c'est la posture de l'évaluateur, du consultant universitaire qui sont valorisés au détriment, selon Vandenmaren, toujours de la posture du chercheur qui est en capacité de contester les savoirs existants ou bien du senior accompagnateur des praticiens. Voilà. Alors, juste pour conclure, cette présentation laisse apparaître, c'est vraiment un hiatus entre le monde de la recherche et celui des praticiens, et plusieurs auteurs plaide pour un recadrage de la recherche sur la pratique, non pas celle qui est préconisée par le ministère, mais vraiment la pratique qui existe sur le terrain. Il y a vraiment une méconnaissance entre, et puis une espèce de défiance mutuelle entre praticiens et chercheurs. Les enseignants sont vus comme conservateurs parce que ils seraient résistants au changement du point de vue des chercheurs qui ont été qui ont accompagné la mise en place du renouveau pédagogique qui a été instauré par le gouvernement. Et réciproquement, les enseignants voient les chercheurs comme des pédagogues à la solde du ministère. D'ailleurs, il y a une petite blague qui circule. Alors, comment fait un chercheur en éducation pour se suicider ? Je suis désolée, j'ai pas l'accent pour le... Comment ça se fait-tu ? La blague dit que c'est très facile parce qu'il lui suffit de monter tout en haut de son ego et puis de se jeter en bas. Voilà. Un peu de mauvais esprit pour terminer.
Ce que je viens d'apprendre, c'est qu'effectivement, il y a un problème, je ne sais pas comment on peut l'expliquer, entre les fruits de la recherche et la pratique des classes. Ça, c'est... Comment on peut expliquer ce problème justement ?
Moi je ne peux vous dire que ce qu'en pensent des chercheurs. Hein. Moi je n'ai pas d'avis autorisé du tout sur la question. Hein, mais bon, Van den Maren, c'est un chercheur qui a vraiment, il a un certain âge, il a vraiment connu toute l'histoire des sciences de l'éducation. Donc c'est pour ça que je me suis intéressée à son témoignage. Bon, peut-être que les études en sciences de l'éducation ne sont pas forcément, enfin, de toute façon, une approche conceptuelle, ça intervient un petit peu au niveau maîtrise, etc. Sinon, c'est plutôt l'approche pratique, etc., qui est, un petit peu valorisé dans les études au Québec. Et ce qui expliquerait ce fossé entre les chercheurs qui, eux, se régalent dans le concept et les praticiens qui ont plus envie d'être proche de leur pratique professionnelle, d'avoir des trucs, des moyens d'intervenir. Mais bon, c'est une hypothèse.
Je sais pas, juste pour réagir brièvement, je pense pas qu'il y ait un hiatus plus fort au Québec que dans d'autres pays. En fait, je pense que c'est ce que tu voulais dire et sans doute ce qu'il faut comprendre derrière tout ça, c'est que il y a des métiers différents, il y a des regards différents et que je dirais ce qu'on peut appeler la recherche et développement en éducation, c'est-à-dire comment on produit de la connaissance, comment on diffuse cette connaissance et comment on l'exploite pour faire progresser à la fois les systèmes et les pratiques pédagogiques nécessitent qu'il y ait une communication entre les différents acteurs, et on sait bien que cette communication elle n'est pas forcément fluide. Donc je pense qu'il faut simplement le comprendre comme ça, et puis on n'est pas... Bon, je pense qu'on ne pourra pas apporter beaucoup d'éléments supplémentaires par rapport à cette question-là. C'est un problème qui est général du fait que les acteurs ont des positions différentes, avec une communication qui se passe plus ou moins facilement, ou qui est plus ou moins facilitée, je dirais, par les dispositifs existants. Il semblerait qu'au Québec, il n'y ait pas forcément de dispositif qui facilite cette communication entre les acteurs. Je pense qu'il faut l'interpréter comme ça.
Et voilà. Donc je suis désolée, je ne vais pas vous parler du climat, ni faire de la prospective sur l'état de la planète dans quelques années. C'est facile hein, comme introduction. Voilà, donc je vais sans doute en décevoir quelques-uns, mais pour ça, je pense que les médias font bien leur boulot en ce moment, donc je vais plutôt vous parler de la recherche en éducation au Danemark. Alors pourquoi j'ai choisi le Danemark? Parce que, bon, je l'ai un peu choisi, pour une raison tout à fait pragmatique d'abord. Ouais, donc pourquoi j'ai choisi le Danemark? Pour une raison pragmatique d'abord, parce que je vais avoir l'occasion d'y faire une visite d'études normalement prochainement, dans le cadre des visites d'études du CDFOP. Donc il m'intéressait, je dirais, à titre personnel, d'approfondir un petit peu ce qui se passe au Danemark pour voilà, pour avoir un petit peu des bases d'échange une fois sur place. Et puis la deuxième raison, elle est quand même plus, je dirais, plus adaptée, c'est que le Danemark s'est lancé, je dirais, dans une politique un petit peu active de refonte de son système éducatif total depuis une dizaine d'années. Et dans cette entreprise de refonte, on inclut effectivement une réflexion sur la recherche et sur les relations entre la recherche et la pratique, avec la mise en place d'une institution qui s'appelle la DPU, qui est l'Université pédagogique danoise, qui est une institution unique en son genre, dont je vais vous donner quelques éléments pour mieux appréhender le contexte local. Donc l'idée, moi je suis partie de documents produits par l'OCDE en fait, parce que dans le cadre d'une réflexion qui a été menée à l'OCDE, certains pays ont manifesté un intérêt pour avoir une espèce d'audit de la part des équipes de l'OCDE sur leur système de recherche et développement en éducation. Et le Danemark fait partie de ces pays qui se sont portés volontaires pour avoir un petit peu une analyse de leur propre système, pour faire évoluer leur pratique. Donc en ça, c'est intéressant parce qu'on va partir ensemble un peu en voyage pendant une dizaine d'années. Donc je vais partir des idées 2000, des années 2000 assez rapidement, hein, pour arriver à aujourd'hui, et vous verrez que il y a eu une évolution sensible sur le sujet. Donc l'idée, c'est de voir un petit peu comment effectivement s'articule à la fois la création, la diffusion et l'exploitation de la connaissance qui est produite par les différents acteurs. Et on va voir qu'au Danemark, comme beaucoup de pays, enfin je pense qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans la présentation, vous allez très facilement, je dirais, ce que je vais dire, en tout cas, va très facilement faire écho à des choses que vous avez pu déjà croiser ou peut-être entendre dans les présentations de mes collègues dans les présentations précédentes. Donc, ce qui se passe au Danemark, c'est qu'effectivement, il n'y a pas, comme dans la plupart des pays, un système, je dirais, centralisé, explicite, formalisé, qui permet de faire fonctionner, enfin de rendre efficace cette recherche et développement en éducation. Mais il y a plusieurs microsystèmes, je dirais, qui essayent de communiquer entre eux, dont les établissements d'enseignement supérieur, la formation des enseignants, effectivement, les programmes de type gouvernementaux et les syndicats d'enseignants qui participent aussi à ce jeu de production de connaissances. Dans quelle mesure ces différents systèmes participent-ils à l'innovation ou à stimuler l'innovation dans le système éducatif? C'est ce qu'on va essayer d'explorer de manière tout à fait grossière. Donc effectivement, on est dans des logiques d'acteurs qui fait que c'est pas seulement une question de produire de la connaissance ou de consommer de la connaissance. Il faut à un moment donné qu'il y ait un partage, une construction, et qui n'est pas forcément évidente, notamment du fait qu'une des caractéristiques au Danemark, c'est l'autonomie professionnelle des enseignants sur le terrain. Il y a une très forte autonomie, le système éducatif est extrêmement décentralisé. Voilà. Ça n'a pas avancé là. Si. Effectivement, comme je disais, une mobilisation très forte depuis une dizaine d'années. Du gouvernement danois sur la question, avec au départ, alors pour donner une piste sur le système de recherche il y a une dizaine d'années, un système bicéphale, hein, avec une recherche fondamentale qui se fait plutôt du côté des universités. Et quand je dis recherche fondamentale, je pense qu'il faut être un peu modeste sur la question, on y reviendra. Disons une recherche qui se fait dans l'université, financée par l'équivalent de notre ministère de la Recherche, donc au Danemark c'est le ministère de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, et une recherche, je dirais, beaucoup plus appliquée, qui se fait du côté des CVU, qui sont des espèces de collèges post-secondaires, j'ai traduit ça comme ça, qui sont, je dirais, un petit peu les EUT qu'on a chez nous, enfin en tout cas des formations courtes, professionnelles, appliquées, après le baccalauréat, et qui concernent différents métiers, notamment les métiers sanitaires, des formations courtes sanitaires, voilà, et puis la formation des enseignants. Donc ces collèges post-secondaires sont en charge de la formation initiale des enseignants et dépendent du ministère de l'Éducation nationale. Donc on a ce système et peu de coordination ou en tout cas peu de communication entre les deux systèmes, les universités d'un côté et les collèges post-secondaires de l'autre. Bon. Donc, l'idée du gouvernement danois à l'époque était effectivement, comme je vous l'ai dit, de solliciter l'OCDE pour améliorer la qualité de leur système. Et donc, ils sont rentrés dans... ils ont commencé, je dirais, cette rénovation du système en créant l'université pédagogique danoise que j'ai évoquée tout à l'heure, la DPU, en 2000. L'idée derrière tout ça, c'était de mettre de la cohérence, de créer du lien entre les universités et les collèges postsecondaires pour aller vite. La DPU aujourd'hui, depuis environ 2004-2005, depuis 5 ans, gère approximativement entre 40 et 45% des projets de recherche au Danemark. Bon, voilà, on reviendra un peu sur la DPU un peu plus loin. Là, c'est juste une mise en bouche. Ce qu'il faut savoir, ce qui est une autre spécialité du Danemark, c'est alors un budget en éducation qui est globalement plus élevé proportionnellement que ceux des autres pays de l'OCDE, puisque mon étalon, là, c'est l'OCDE, on est d'accord. Mais en revanche, à l'intérieur de ce budget éducation, un budget relativement faible dédié à la recherche. Je commenterai pas les chiffres parce que je suis pas en capacité de les commenter, mais globalement c'est ça. Un budget éducation important, un budget recherche en éducation proportionnellement faible. Alors, comment se finance la recherche et développement en éducation? Je m'appuie toujours sur une étude de l'OCDE, dont les références vous seront données à la fin du diaporama. Donc, c'est une étude, celle-ci date de 2004. Donc, en 2004, au Danemark, entre 65 et 75% des crédits de recherche viennent du ministère de la Recherche, enfin ministère de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, qui est distribué via le budget annuel de recherche qui est accordé aux universités. Dans ce contexte, les départements universitaires bénéficient d'une autonomie relativement forte, et cette autonomie est, pour l'instant, un peu remise en question par l'arrivée de la DPU qui, en tant qu'université de pédagogie, essaie de mettre en cohérence les différentes activités de recherche des départements universitaires. 5 à 10%, donc une proportion relativement faible, me semble-t-il, proviennent de crédits, je dirais, de plans de financement concurrentiels. Donc c'est des réponses non pas à des appels d'offres, mais plutôt des réponses à des appels à projets, qui sont thématiquement pas très bien définis. Donc il n'y a pas de thématiques prioritaires qui sont définies, il y a simplement des appels à projets établis par le fameux Conseil danois pour la culture et la communication, annuellement. Donc il y a un appel à projet lancé par ce Conseil danois, sans thématique particulière pour l'instant. Enfin, ça évolue maintenant, mais en tout cas en 2004 c'était le cas. Et donc les départements universitaires proposent des projets tout à fait librement, sans cadrage très spécifique. Les 10 à 15 % restants de financement sont couverts par des fondations privées ou des fonds internationaux, notamment européens. Bon, donc ça, on était sur la recherche universitaire. Hein. Je vous ai dit, il y a un système bicéphale. On passe sur la recherche appliquée au niveau des collèges postsecondaires.
Justement, il y a quelque chose qui m'impressionne, surtout pour les présentations de ce matin concernant justement les différents systèmes de recherche à l'échelle internationale. Il y a quand même des standards internationaux. C'est justement la tendance vers la décentralisation, vers l'autonomie. Mais bien sûr, à travers un système d'évaluation, peu importe sa rigueur scientifique. Mais ici, je vois qu'il y a un retour. Au début, il y a une autonomie. Maintenant, une centralisation de la recherche à travers la DPU.
Alors, si vous permettez...
Si vous permettez de vous arrêter un petit peu à ce niveau-là, parce que c'est très important, c'est très impressionnant.
C'est très impressionnant,
benchmarking, comme expérience internationale.
C'est une structure assez unique en Europe. Alors, si vous voulez bien, je vais terminer ma présentation parce que je vais revenir sur les activités de la DPU un peu plus en détail après ce descriptif de la structure qui était en 2004 pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Et là, vous aurez peut-être des éléments un peu complémentaires. Et puis, on réagira après, si vous voulez bien. Donc les CVU, comme je disais, étaient responsables de la formation initiale des enseignants et sont devenus responsables de la formation continue des enseignants également, qui étaient auparavant dans les universités. Donc ça a été un des changements majeurs au milieu des années 2000. Hein. Donc ces collèges post-secondaires maintenant s'occupent de la formation continue et de la formation initiale des enseignants et je dirais sont porteurs d'une longue tradition d'expérimentation et d'innovation dans le secteur scolaire, essentiellement centralisé sur le premier cycle. Le premier cycle au Danemark, c'est à la fois le primaire de chez nous, plus le premier cycle du secondaire. Hein. Ils ont une école, une structure qui s'appelle la Folkeskole. Vous m'excuserez, je parle pas danois couramment, mais bon, peu importe. Ça s'appelle comme ça, et c'est ça combine à la fois le primaire et le premier cycle du secondaire. Hein. Donc c'est une structure unique. Et donc les CVU... travaillent en collaboration, ont un ancrage assez fort du côté des collectivités, donc ça c'est aussi une spécificité, donc sont très loin du monde universitaire et assez proches, je dirais, des communautés d'enseignants et des collectivités. C'est un petit peu comme ça que ce profil, en tout cas se profilait il y a quelques années. Une des volontés, je dirais, du gouvernement danois dans cette entreprise de rénovation était d'opérer des rapprochements entre cette recherche appliquée qui finalement restait très peu visible et surtout très peu palpable, de rapprocher cette recherche de la recherche universitaire. Donc, ces CVU ont changé de statut en 2000 et ont obtenu un statut de rattaché à la recherche. Bon. Concrètement, ça veut dire qu'ils sont devenus responsables de la formation continue des enseignants et qu'on a mis en place des structures pour essayer de faire du lien. Parmi ces structures, donc, il y a eu la DPU, dont j'ai déjà parlé, dont je reviens pas. À côté de cette DPU, il y a d'autres structures qui ont été mises en place, qui sont des centres de ressources. Je retrouve pas ma diapo, elle a dû... et ces centres de ressources, qui sont des centres de ressources thématiques, pour la plupart du temps, qui ont été mis en place pour, je dirais, pour traduire la recherche appliquée qui se passe dans les collèges post-universitaires pour la rendre compréhensible au niveau des universités et inversement traduire la recherche universitaire pour la rendre compréhensible par les praticiens qui sont dans ces collèges post-secondaires. Bon. Donc globalement, la R&D au Danemark, c'est une recherche appliquée assez forte mais sur laquelle on n'a aucune prise, une recherche fondamentale qui est insuffisante parce que parce que les projets universitaires restent des micro-projets, somme toute. En tout cas, c'était la critique émise par l'OCDE, sur lequel on a très peu de visibilité, avec une autonomie forte des chercheurs qui, en gros, font ce qu'ils veulent dans leur laboratoire. Ça ne vous rappellera rien, sans doute. Ce qui se passe effectivement, enfin, ce qui a été mis en lumière, c'est derrière cette idée que la recherche fondamentale est insuffisante, c'est que il n'y a pas de science de l'éducation en tant que telle, mais il y a un emprunt d'un univers de concepts à des univers conceptuels qui ne sont pas de l'éducation au départ et qui s'appuient essentiellement sur la psychologie et la didactique. Avec une des critiques qui a été émise, qui était de dire que les sciences politiques, l'économie et le droit sont, par exemple, des univers conceptuels qui sont très très peu sollicités dans la recherche en éducation au Danemark. Insuffisamment sollicités selon l'OCDE. C'est pas mon avis que je vous donne, hein, on est bien d'accord. Un système scolaire, parmi les caractéristiques, donc un système scolaire extrêmement décentralisé, mais ouvert à l'innovation. Donc ça, je ne fais que répéter ce que j'ai déjà dit, mais d'une autre manière. Et une formation initiale déconnectée de la recherche, puisque organisée dans ces collèges postsecondaires, avec une très faible culture de l'évaluation, qui ça a été aussi une des plus fortes critiques émises par l'OCDE à l'occasion de cette étude. Donc, en conclusion sur les infrastructures, un système traditionnel avec des priorités de recherche qui sont définies par les chercheurs eux-mêmes, donc une déconnexion traditionnelle entre la recherche et le développement professionnel, pas de stratégie nationale explicite, je l'ai déjà dit, c'est juste, je dirais, pour le redire autrement. En revanche, un premier pas avec le développement d'une approche un peu scientifique de l'innovation. Donc il y a eu un premier laboratoire qui s'appelle le Learning Lab Denmark qui a été mis en place, pareil, au début des années 2000, qui avait pour fonction de créer, enfin, de réfléchir scientifiquement à l'innovation. Et non pas de laisser l'innovation aux simples praticiens. Donc ça a été un premier pas. Autre conclusion de l'OCDE sur les thèmes et les méthodes, et pas seulement sur les infrastructures. C'est l'idée qu'il y a des sujets, je dirais, que la société civile met en avant, mais qui ne sont pas du tout exploités par la recherche, a été notamment soulignée la question des enseignements scientifiques, où il y a une espèce de discours, je dirais, largement consensuel pour dire qu'il faut renforcer les enseignements scientifiques, mais la recherche ne s'empare pas de ce sujet-là. Parmi les autres thématiques lacunaires dans le système danois, c'est l'enseignement et la formation professionnelle, et puis les méthodes quantitatives. Très très peu. Alors on a vu, hein, donc plutôt la recherche dans les universités emprunte plutôt à la psychologie, à la didactique, mais très peu d'investissement dans les méthodes quantitatives, une sous-exploitation des statistiques, pas d'analyse de cohorte, etc. Bon. Et puis pas de mécanisme qui permet de définir les thématiques prioritaires de recherche, donc ça je l'ai également dit. Et puis pas d'analyse systématique fondée sur l'analyse des données factuelles, l'evidence-based research dont vous avez dû déjà entendre parler. Voilà. Alors les axes de développement proposés par l'OCDE par rapport à cette analyse qui a été faite en 2004. Enfin, entre 2000 et 2004, donc c'était l'idée de clarifier les rôles respectifs des différents intervenants dans ce processus de recherche et développement en éducation. Donc à la fois le conseil de recherche, hein, dont j'ai parlé au début, qui distribue les subventions, la DPU et les CVU, pas le CVU de chez nous, évidemment. L'idée qu'il faille effectivement définir des priorités de recherche, en s'appuyant notamment sur ce qui existe déjà, et notamment sur la question des compétences de base chez les élèves, où il y a déjà une recherche qui existe. L'idée, c'était d'avoir une approche peut-être un peu plus systémique de cette question-là, et puis un focus peut-être autour des études universitaires. Et puis, évidemment, l'idée de développer les financements concurrentiels qui sont de l'ordre de 5 à 10%, comme je vous ai dit au début, donc qui sont relativement faibles. Dernier point souligné par l'OCDE, le développement de mécanismes d'interaction entre chercheurs et praticiens, et c'est maintenant ce que je vais vous montrer. Alors, ce qui était intéressant dans ce travail sur le Danemark, c'est que j'ai commencé mon diaporama en écrivant, en lisant des documents qui dataient de 2000, après j'ai fait 2004 et après j'ai fait 2008. Et j'écrivais mon diaporama au fur et à mesure, et j'ai commencé par écrire 25 universités. Bon. Et puis, au bout d'un peu de lecture, j'ai gommé 25 universités, et j'ai mis 12 universités. Et puis, à la fin de mon diaporama, je suis arrivée à 8 universités. Bon. Donc, tout ça pour dire qu'en 10 ans, je trouve que c'est un peu de l'anecdote ce que je vous dis là, mais en 10 ans, le système est passé effectivement de 25 universités à 8 universités. Donc, il y a une entreprise de refonte du système éducatif danois qui est absolument énorme et qui n'est pas forcément de l'ordre des presses de chez nous, hein, par exemple. Donc il y a une politique de fusion et de regroupement, mais qui n'est pas uniquement basée, je dirais, sur des critères géographiques ou régionales ou territoriales, parce que ces entités d'aujourd'hui, ces universités d'aujourd'hui, sont à la fois des regroupements de disciplines, enfin multidisciplines, mais aussi multisites. Hein. Donc l'université d'Aarhus que j'ai soulignée, je suis désolée, je ne vais pas vous parler trop de Copenhague, qui est l'université qui héberge la DPU. Elle a une base dans une ville qui, j'imagine, s'appelle Aarhus, j'ai pas vérifié, mais elle inclut des morceaux d'université qui ne sont pas du tout localisés dans cette région-là. Hein. Donc on est bien sur du multisite et du multidiscipline, c'est assez particulier. Alors, qu'est-ce qui a été fait depuis cette étude de l'OCDE? Ah ben, ce sont, voilà, ma fameuse diapo sur les centres de ressources régionaux dont je vous parlais tout à l'heure. Elle était juste pas placée au moment où j'avais envie d'en parler. Donc, je vous disais, hein, ce sont des organismes, en gros, qui font de la traduction. On va le dire comme ça, hein, donc qui traduisent la recherche appliquée pour les universités et qui traduisent la recherche universitaire pour les praticiens. Bon, donc on n'a pas beaucoup de retours. Hein, tout ça est très récent, donc je peux pas vous dire si ça marche ou si ça marche pas. Là, je suis en train de vous décrire ce qui a été mis en œuvre. Hein, donc ces centres de ressources ont été mis en œuvre depuis 2004. Voilà. Alors, la DPU, j'ai deux ou trois diapos dessus qui vont nous amener jusqu'à la conclusion. Je ne vais pas trop insister sur l'histoire. Elle a été créée en 2000 de la fusion de trois établissements qui existaient déjà, avec une mission de mise en cohérence effectivement de la recherche au niveau national. Dans un premier temps, mais aussi, je dirais, une mission d'investissement dans la formation. Et donc a été développée dès cette époque-là une offre de formation de type master et doctorat, assez unique en son genre en Europe, ouvert aux étudiants internationaux. Hein. Je dis deux choses après sur cette structure en termes d'enseignement. Ça représente un volume de 4000 à 5000 étudiants par an globalement, 20 programmes de master dont 3 programmes européens. 100% européen. Tous les masters, évidemment, sont en anglais, hein, parce que la DPU fonctionne en anglais, mais 3 qui ont un label européen. Voilà. Sur des thématiques que vous reconnaîtrez comme des thématiques clés, qui sont des thématiques apprentissage tout au long de la vie, leadership et innovation et nouvelles technologies. Sur le plan de la recherche, cette DPU, qu'est-ce qu'elle apporte ? Donc, c'est 200 chercheurs permanents, un tiers des effectifs de chercheurs danois, et un volume de entre 40 et 45% de l'ensemble des projets de recherche développés sur le territoire danois. Et un financement extérieur de l'ordre de 40%. Donc, en termes de vocation, Donc cette vocation de coordination dont j'ai parlé, une vocation de vulgarisation des connaissances scientifiques et je dirais une mission de conseil auprès du gouvernement danois pour définir un petit peu les priorités stratégiques, non pas de la recherche mais plutôt de l'administration du système éducatif. Donc une notion de veille stratégique et d'aide à la décision. Voilà. Alors la DPU s'appuie effectivement sur des partenariats extérieurs. Ils ont une position très active par rapport à cette constitution de partenariat. Ils ont fondé une alliance avec 8 établissements leaders en Europe. Europe-Asie, hein, donc une espèce de voilà, dans lequel vous reconnaîtrez l'Institut de Londres dont on a dû vous dire deux mots ce matin, mais aussi effectivement des universités de Chine, de Singapour et de Corée. Donc une volonté en tout cas d'internationaliser leur position. Ils ont également été à l'origine d'un réseau Asie-Europe qui facilite en tout cas les échanges d'enseignants et d'étudiants. Ils sont membres d'une association scandinave, enfin nordique on va dire, la Nordic Educational Research Association, qui est la grosse association de cette région d'Europe, et ils sont évidemment membres de l'ERA, l'European Educational Research Association, qui est la grande association européenne. Bien, je termine juste par l'intérieur de la DPU. Donc maintenant que je vous ai dit qu'il y avait des partenariats, à l'intérieur il y a donc ce département que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, qui a cette mission un petit peu d'accompagner l'innovation, mais en lui donnant un ancrage scientifique, on va le dire pour aller vite, et qui adopte une approche un petit peu ouverte, hein, donc c'est du public, c'est du privé, enfin, ils ne se cantonnent pas à leur petit laboratoire, voilà. Donc ils essayent en tout cas de mettre en place des méthodes aussi un petit peu différentes. Et puis il y a d'autres départements à l'intérieur de la DPU. Alors ce qui est très drôle, c'est que là aussi ça bouge beaucoup. Je pense que s'il fallait retenir une idée de ce qui se passe actuellement au Danemark, c'est l'investissement depuis 10 ans sur les structures. C'est-à-dire que la position du Danemark a été de dire ok, on n'est pas performant, c'est pas bon, on jette pas tout, mais on refait toutes les structures. Donc on refait les universités, on refait les collèges postsecondaires qui n'existaient pas, ou en tout cas pas sous cette forme-là, qui aussi ont connu des regroupements. Hein, et donc à l'intérieur de la DPU, c'est pareil. On a commencé à créer des départements de psychologie, de sociologie, d'anthropologie. C'est pas très intéressant pour vous de savoir qu'il y avait ces 3 ou 4 départements là et que ces 3 ou 4 départements là ont changé de nom. Ce qui est intéressant de voir, c'est le changement de perspective. Hein. On avait des départements qui au départ étaient, je dirais, liés à une approche. Hein. Psychologique, sociologique, anthropologique, etc. Ces départements-là ont été éliminés et ont été, je dirais, refondus dans des entités qui sont des entités thématiques. Donc c'est ça qui est intéressant, hein, derrière. C'est derrière l'anecdote du fait que 4 départements ont changé de nom. Donc on a maintenant des entités thématiques autour du learning, autour de education, curriculum research et compulsory schooling. Bon. Je ne veux pas rentrer dans le détail de ce que font ces entités. Hein. Voilà, c'était l'idée c'était cette idée-là qui me semblait intéressante. Pour terminer, des priorités. Alors, la DPU a effectivement aussi des priorités de type evidence-based et centrées aussi sur les approches comparatives. Et donc, je dirais, s'il y a un point d'entrée aussi qui est intéressant sur les recherches au Danemark, c'est celui-là. Ils ont mis en place un espèce d'observatoire, un clearinghouse of educational research, qui a vocation à la fois à donner une vue sur la recherche à l'intérieur du Danemark, mais aussi à l'extérieur, parce que l'idée c'était d'avoir un observatoire international et de s'appuyer donc sur ce qui existe déjà d'ailleurs ailleurs en termes de evidence-based education. Donc, j'ai pas pu assister ce matin, mais on vous a sans doute parlé de l'épicentre au Royaume-Uni, oui, oui. Bon, donc il y a différents types, il y a différents institutions, enfin centres de ce type-là, hein, qui ici ont été regroupés, c'est-à-dire que l'entrée par l'International Clearinghouse of Educational Research de la DPU vous permet à la fois de savoir, les revues de littérature ou les revues systématiques qui sont faites dans l'épicentre, dans le clearinghouse des États-Unis et dans la base néo-zélandaise correspondante. Voilà. Bon, j'ai terminé. Sur les revues, il n'y a pas tellement de revues. Il y a deux revues qui sont traditionnellement en langue danoise. Une revue sciences de l'éducation générale, revue de pédagogie danoise, et une revue plus tournée vers l'histoire de l'éducation. La seule revue, qui produit vraiment de la recherche, enfin qui rencontre de la recherche dans cette zone géographique, c'est la Scandinavian Journal of Educational Research, qui couvre la zone scandinave, donc, et pas seulement le Danemark, et voilà.
Alors je vais aller vite, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. C'est juste pour que vous ayez... Alors je parle sous votre contrôle, hein, pour l'Allemagne, d'accord ? Bon. Alors moi j'avais essayé un petit peu, alors j'ai pas tout à fait non plus suivi les consignes qu'avait donné le chef, donc j'ai fait un peu, voilà, comme je, sans doute un petit peu différemment des collègues, donc je vais aller très vite. Simplement j'avais essayé donc moi aussi de voir quelques données en matière de contexte. Ce qui est important de retenir, c'est pas forcément que c'est essentiellement un enseignement public, etc. Ce qui pouvait être intéressant, bien entendu, c'est de retenir que c'est un État fédéral, donc que les Länder ont, bien entendu, un certain nombre d'autonomie en matière d'éducation, qu'il y a donc des ministres par Länder, et que par contre, il y a effectivement une espèce de conférence des ministres de l'éducation, la Kulturminister Conference, qui donc donne un certain nombre quand même de préconisations au niveau national. Et puis il y a bien entendu des libertés par rapport à l'application de ces standards et en matière donc de recherche et de formation des enseignants. Il peut y avoir quelques clivages. Les particularités donc que j'ai retenues sont par rapport à l'emploi du temps, par exemple au primaire. Donc qui peut aussi, donc qui a pu donner, qui a pu faire l'objet d'un ensemble de recherches pour savoir faut-il passer au Ganztagsschule, c'est-à-dire l'école à plein temps. Je reviendrai peut-être tout à l'heure là-dessus. Et puis ce qui aussi, nous, ce qu'on a pu en entendre au niveau français de ce qui pouvait se passer en Allemagne, c'est la réaction aux résultats de l'enquête PISA. J'ai cru comprendre que vous en aviez un petit peu discuté en disant qu'il y avait des résultats plus ou moins favorables selon les Länder, c'est ça ?
En fait, ça dépend vraiment fortement des Länder, étant donné que chaque Land a quand même son programme scolaire.
Voilà.
Et donc, il y a une énorme différence entre Bayern, qui est vraiment au top, je vais dire, Baden-Württemberg, qui a même des résultats supérieurs à ceux de la France. Donc, c'est vraiment très, très variable. Brême, qui est plutôt vers... qui a des résultats plutôt plus mauvais, quoi. Mmh. Donc, il y a une très grande différence selon le Land, étant donné qu'ils ont chacun leur politique éducative quand même assez propre.
Mais c'est vrai
malgré
que...
les standards qui sont fixés par...
Voilà, et du point de vue français, on a retenu effectivement que les Allemands étaient catastrophés par les résultats
et c'est pas vrai.
Des évaluations. Voilà pourquoi je voulais vous faire intervenir.
Oui. Mais il faut signaler que PISA fait abstraction des programmes et ne s'intéresse pas aux programmes.
Oui.
Il prend en considération l'âge et les compétences à transférer au niveau de la vie quotidienne. C'est en quelque sorte le citoyen compétent. Donc ils s'en foutent des programmes. Donc justement, le dispositif d'évaluation ne s'intègre pas au programme des différents pays qui participent à l'enquête PISA. C'est très important de signaler ça.
Oui, c'est sûr que c'est les compétences à l'âge de 15 ans, enfin fin de scolarité obligatoire, et à partir d'items qui, bien entendu, ne transparaissent pas. Mais c'est vrai, enfin, nous, on a retenu le fait que les Allemands avaient été inquiets, et donc à partir de là, on peut réfléchir, et donc on peut avoir démarré des travaux de recherche aussi sur ces problématiques-là. C'était le but du jeu. Donc, juste sur les rythmes scolaires, parce que nous, on avait été sollicités par notre alter ego allemand, le DIPF, dont je vais reparler tout à l'heure, à une époque sur la journée scolaire où il se posait la question de savoir si il fallait passer donc à la journée entière, et il nous avait demandé quels étaient les avis au niveau français sur les rythmes scolaires, par exemple. Donc c'était et donc ils ont produit un certain nombre de travaux à la suite de cette interrogation il y a 3-4 ans, hein, par exemple. Donc juste pour dire qu'effectivement, le fait qu'il y ait des lenders avec des programmes différents selon les lenders, et aussi quelque part des horaires et des emplois du temps qui peuvent varier. Donc ça, c'était juste pour le contexte. Ce que j'ai aussi retenu un peu de mes lectures pour préparer cette intervention, c'est que le système éducatif est présenté comme un système en réaction à un régime qui avait été centralisé, et où donc on a cherché à faire le moins de standardisation au départ possible, de manière à laisser une certaine liberté, une certaine autonomie, éviter donc les normes et la marche au pas, et donc avec un cadre de politique fédérale, donc avec une régionalisation de l'éducation. Et où on parle beaucoup plus, peut-être, me semble-t-il, de pédagogie, de sciences humaines, sciences sociales, en parlant de sciences au singulier de l'éducation. Alors, je vais revenir sur la formation des enseignants, puisqu'on y est tous un petit peu passés, et puis donc, comme vous avez pu constater, c'est un peu mon dada en ce moment. C'est un petit peu aussi donc comme en France, c'est-à-dire que, a priori, donc pareil, de manière générale, c'est consécutif, c'est-à-dire qu'on a une formation dans les universités, puis ensuite une période probatoire de 2 ans qui peut n'être que de 18 mois, je vous regarde aussi là-dessus, de 18 mois dans certains lenders. Hein, donc en gros, c'est à peu près ça. Alors au départ, il y avait 43 types de professorat, et puis donc les dernières prescriptions du Kulturministerium Konferenz, a priori en proposait que 6. Vous vouliez intervenir, oui?
Aussi, ça dépend des Länder, mais il y a certains Länder qui ont des pédagogische Hochschule, donc on peut appeler ça école supérieure de pédagogie. Donc oui. Ça dépend si la formation des enseignants est rattachée à l'université directement, ou on a justement des écoles très, très spécifiques pour cette formation-là.
Voilà. Donc le consécutif, effectivement, se peut faire soit rester dans l'université, soit avec des centres de formation pour... de manière générale, avec donc une formation préparant à l'enseignement, avec des stages, avec des séminaires de pédagogie, de didactique des disciplines. Et donc là, on a effectivement un recrutement ensuite par les lenders. Alors la recherche en éducation, donc juste, je vais essayer de faire vite. Je voulais donc parler de notre homologue, le Deutsche Institut für Pädagogik Forschung. Le DIPF, c'est mieux, voilà, qui a donc été créé en 1951. Alors, le petit 2007 qui est là, c'est 2007, c'est le moment où l'INRP a signé une convention avec le DIPF. Donc, voilà, c'était pour le noter. Donc, c'est un institut qui n'est pas universitaire, mais qui propose aussi bien de la recherche que du traitement et de la diffusion d'informations. Et le financement est sans doute un peu différent. Là, j'aimerais bien embêter Olivier Rey sur ce sujet, mais je vais lui le laisser tranquille, parce que c'est lui qui avait eu un moment un peu des contacts avec le DIPF pour expliquer leur manière de fonctionner. C'est-à-dire qu'eux, a priori, ils ont besoin... Nous sommes par exemple subventionnés par le ministère de l'Éducation nationale. Eux, ils ont besoin de trouver des financements. Hein, c'est un petit peu la différence. C'est-à-dire qu'ils ont des chercheurs, ils ont donc beaucoup d'informations... Je vais passer ensuite, par exemple, à leur méthode de... Ils ont un portail donc de l'éducation où il y a une foultitude d'informations, mais c'est vrai qu'ils ont besoin aussi, par ailleurs, de trouver des moyens de financement. Alors c'est vrai que sur le financement, j'ai pas trop détaillé sur les financements de la recherche, mais donc ils doivent effectivement trouver des moyens et ils coordonnent des réseaux, ils accompagnent les politiques publiques. Ils nous ont donc interrogés sur les rythmes scolaires pour pouvoir derrière rendre un rapport au KMK, pour être faire court. Voilà, par exemple, donc c'est notre homologue avec un petit plus sans doute par certains côtés. Alors donc eux, ils ont donc des chercheurs qui cherchent par exemple à ces temps-ci sur l'évaluation de la qualité de l'éducation, sur la gestion, le financement de l'éducation, la gouvernance, ou sur le thème éducation et développement. Alors ça c'est un petit côté un petit peu pratique, c'est presque un préliminaire au module 2 pour ceux qui font le module 2. Ils ont un portail de l'éducation allemand qui vous permettra de quasiment tout savoir, c'est-à-dire qu'il y a une base de données avec, comme n'importe quelle base de données, des informations, des références bibliographiques sur des ouvrages, des articles, etc. Et puis ils ont fait un certain nombre de... c'est un portail, c'est-à-dire qu'ils offrent un certain nombre d'informations thématiques, de manière générale, sur le système scolaire, donc si vous voulez avoir des informations, sur la petite enfance, le préscolaire, bref, sur tous les différents niveaux de formation jusqu'à formation d'adulte, éducation spécialisée, et puis recherche en éducation, et sur un certain nombre de thématiques, en ce moment, donc pédagogie sociale, médias éducation, éducation interculturelle, éducation dans le monde, avec aussi des informations permettant donc de lier vers... enfin, des informations à l'usage des parents, des enseignants, des formateurs, etc. Donc il y a une multitude d'accès et d'approches qui sont proposées dans le Deutscher Bildungsserver. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir ? Alors j'avais noté quelques petites informations spécifiques qu'on pouvait y trouver sur les institutions fédérales pour compléter, si vous voulez en savoir plus, sur la recherche en éducation en Allemagne, avec un certain nombre donc, d'entités travaillant sur le sujet et un certain nombre de statistiques sur la recherche et sur le système éducatif allemand par ailleurs. Il y a aussi donc un autre portail qui s'appelle le Phare Portal Pédagogique, qui est un peu plus large et un peu plus conséquent en matière d'information. Toujours pareil, sur le même type de formalité, je vais passer. Sur la recherche en éducation, alors outre donc une présentation très générale pour dire qu'il y a, selon ce que j'ai trouvé, 408 universités en Allemagne, le Deutsche Bildungsserver dénombre 1985 entités travaillant sur les problèmes liés à l'éducation, de manière très large.
Les 408 universités, c'est...
Les universités, toutes universités, a priori,
c'est beaucoup,
absolument, c'est beaucoup. Tu prends le Deutsche Bildungsserver, tu recherches les universités en Allemagne et tu te dis j'en ai trouvé 408. Voilà. Moi je crois que ce que je vois. Et donc par contre, et 1985 entités travaillant sur les problèmes liés à l'éducation. Donc alors nous on a fait une sélection un petit peu pour trouver les différentes entités. Je vais peut-être passer très rapidement là-dessus. Et j'ai essayé, moi, de faire une ouverture pour parler de la recherche en éducation par rapport à une thématique depuis quelques temps. Donc, il y a un grand projet qui est de faire une vaste campagne, une recherche empirique. Et donc là, ils ont démarré une enquête donc, sur 5 ans. Sur un panel de 60 000 Allemands, du plus petit au plus vieux, et donc qui a été initié par la ministre fédérale Annette Chavan, qui a pour objectif de mesurer le développement des compétences dans le parcours de chacun, c'est-à-dire qu'on va prendre des élèves et puis on va prendre aussi des adultes jusqu'à l'âge de la retraite et au-delà. Et on va essayer donc de les suivre par cohorte. Donc là, ils ont pris les plus petits, si je me souviens bien, et puis une partie des adultes. Et donc, ils vont chaque année prendre un petit panel pour pouvoir observer donc des enfants de même origine et essayer de voir comment ils pouvaient se développer dans les différentes institutions éducatives. pour après ensuite essayer de voir comment on peut lutter contre l'échec, comment déterminer les cas à risque, etc. Alors, donc a priori, dès 2014, on aura quand même un coût d'enquête de 60 millions d'euros. On doit démarrer à 7 millions pour cette année. Et donc, au total, ça fera 60 millions sur les 5 ans. Et donc, 150 chercheurs s'y collent quand même. Alors, sur la méthodologie, donc, juste pour dire, par exemple, c'était pour citer que c'est un réseau de recherche, hein, puisqu'ils sont 150, mais au départ, donc, la tête de pont s'y situe à l'université de Bamberg, et avec des financements associés avec le Land de Bavière et l'université de Bamberg qui participe à la chose. Donc en 2009, 13 000 adultes âgés de 23 à 64 ans. Et puis en 2010, on prend un échantillon d'enfants de 4 ans, des écoliers CM de 6e et puis ensuite 3e seconde avec aussi un petit bout d'étudiants. Voilà, c'était juste pour dire que là, on se lance visiblement en Allemagne dans un grand programme d'envergure pour essayer de mieux connaître le système éducatif, ses résultats, les problèmes d'échec, sans doute, quelque part, malgré tout, du fait des évaluations et puis du fait aussi de la spécificité du système qui, par exemple, entraîne les élèves, oriente les élèves assez rapidement vers la voie professionnelle. Dès la 6e, par exemple. Donc, sans doute, il y a aussi quelques questions à se poser sur le nombre de bacheliers, etc. Je suis passée très vite sur les chiffres, mais voilà. Alors, après, j'ai essayé de prendre toujours mon axe formation des enseignants et essayer de trouver dans ce programme cadre, donc, pour le développement de la recherche empirique en éducation, j'ai essayé, donc, de voir quelles étaient les thématiques traitées pour l'enseignement, pour la formation des enseignants. Donc, il y avait un certain nombre de thématiques sur le développement des compétences, sur le développement, sur l'acte d'enseigner. Vous voyez que là, c'est bien découpé, toutes ces problématiques. Et à chaque fois, on a un certain nombre d'universités. Alors, je ne sais pas si je détaille ou si on n'a pas le temps. Je continue. Alors, j'ai découvert qu'on parlait, alors je ne sais pas, parce que c'était peut-être un problème de traduction, sur les compétences diagnostiques. Alors, est-ce que j'ai bien compris ? C'est-à-dire que c'est la compétence à pouvoir poser une problématique dès le départ ? Ou est-ce que ça veut dire autre chose ? C'est diagnostic compétence. Oui, alors je me suis demandé, parce que c'est pas l'évaluation... diagnostic, a priori, c'était bien en matière de... Donc, j'avais interprété ça, d'après ce que j'ai lu, sur... on se pose des questions sur la compétence du futur enseignant à pouvoir envisager une situation de classe, donc de faire un diagnostic a priori de son enseignement, de la matière d'enseigner, plutôt que de faire une pratique réflexive, c'est-à-dire j'ai fait quelque chose et après je réfléchis. Je me suis demandé si c'était... Voilà, bon. Parce que je l'ai retrouvé assez souvent dans les équipes de recherche, enfin dans les axes de recherche. Oui, on débattra. Voilà, donc j'ai essayé de répartir un petit peu parce qu'il y a finalement, dans ce programme cadre, un bon nombre d'universités qui participent. Donc, sur... beaucoup de thématiques de recherche qui portent sur les compétences. Donc là, vous voyez, par exemple, à l'Université libre de Berlin, on est sur la compétence de gestion de classe dans les programmes de formation, sur les savoirs professionnels, bien entendu. Ça ne nous choque pas particulièrement. Sur l'évaluation pour les éducateurs hors temps scolaire, donc il y a aussi, c'est une ouverture plus large, c'est pas uniquement les enseignants, c'est aussi les éducateurs, c'est aussi le hors temps scolaire. Encore une fois sur les diagnostics et le traitement des erreurs des élèves, donc c'est quand même très précis comme et c'est toujours dans le cadre de la recherche empirique, hein, donc ça veut dire qu'ils vont bien décortiquer les situations et appréhender donc toutes les pratiques enseignantes. L'acquisition et le développement des caractéristiques des personnels chargés de la petite enfance, les compétences diagnostiques et didactiques pour favoriser l'apprentissage des élèves dans l'intégration de textes et d'images. Donc il y a vraiment une variété de problématiques qui vont être prises. Et alors j'en ai pris quelques-unes, il y a quelques thèmes de recherche dans ce programme qui sont d'ordre didactique ou liés à des disciplines. Donc en mathématiques, par exemple. Alors après, juste pour resituer, puisqu'on a aussi un peu parlé des revues en éducation, on en reparlera après demain, mais donc il y a quelques revues en allemand, donc que nos collègues du DIPF nous avaient conseillées sur, sur l'école allemande, qui est une revue faite par un institut donc, de recherche, sur l'enseignement supérieur, Die Hochschule. Une autre revue qui est plus sur le droit des jeunes, donc de l'université de Göttingen, une revue pour la pédagogie, donc qui est faite par le centre d'études en pédagogie de Bâle et l'institut de pédagogie de Munich. Là, il est interfacultaire, hein, donc celui-là. Alors, ils peuvent être aussi bien publiés par des éditeurs privés. Là, ici, par exemple, c'est Belz Verlag, mais c'est donc avec un comité scientifique interfacultaire. Et la dernière dans la sélection, la revue des sciences de l'éducation, qui est proposée par l'Université libre de Berlin, et donc qui a un caractère interdisciplinaire. Donc ça, vous retrouverez toutes ces choses-là. Une association allemande en sciences de l'éducation, qui est membre de l'European Educational Research Association, qui compte 2200 membres, 13 sections, 21 comités, et dont le prochain congrès aura pour thème l'éducation dans la démocratie. Autre institut que j'ai pu ensuite trouver, bon, c'est le Leibniz Institute for the Social Science, qui doit aussi avoir une base de données intéressante, c'est pour ça que je l'avais trouvé dans mes petites recherches, et qui, dans ces bases de données, c'est plutôt des textes, des rapports de recherche, ou bien des instituts, etc. Donc ça permet aussi de recaler si vous recherchez des équipes de recherche et des axes de recherche existant en Allemagne sur des thématiques particulières qui pourraient vous intéresser. C'est un moyen aussi de voir, d'avoir un petit peu un autre paysage des experts et des thèmes de recherche en Allemagne.
Merci beaucoup, mais premièrement, de prime abord, il faut remercier vraiment l'équipe du système de veille en matière de recherche de l'NRP. Pour cette ouverture sur l'international, je pense que nous avons beaucoup appris à travers ce benchmarking concernant justement les différents systèmes de recherche. C'est très important de dire ça. J'ai peut-être une question à Madame Laure Edrizi. Je trouve que l'expérience danoise, c'est un excellent exemple. Qui nous permet justement de faire le lien avec l'exposé d'hier de M. Olivier Rey concernant justement l'articulation entre les politiques publiques et recherche-expertise. Le rapport de l'OCDE, je le considère moi comme une expertise, mais je pense justement, avec toutes les réserves et toutes les précautions à prendre à ce niveau-là, il me semble que la réforme danoise du système de recherche, je suppose qu'à partir de ce que Mme Edrizi nous a présenté, donc je dirais encore une fois, avec toutes les réserves et les précautions, que c'est une réforme un petit peu hâtive parce que je trouve des îlots qui ne sont pas cohérents, un certain nombre d'incohérences qu'il faut bien sûr soulever. Ils ont été aussi otages des résultats des études internationales, notamment PISA et TIMSS. On va voir comment, surtout au niveau du réseau Chine, Corée, Singapour. Donc on sait bien que au niveau des études de TIMSS, soit 2003, soit 2007, c'est Singapour, Corée et la Chine qui classent les premiers. Donc peut-être il faut prendre le recul nécessaire avant d'entamer une réforme. La deuxième inadéquation, c'est concernant justement les centres de ressources. Les centres de ressources, prendre les recherches académiques qui se font dans des sphères un petit peu spécialisées et les vulgariser pour les donner aux praticiens. Je pense que qu'on s'inscrit plutôt au niveau des recettes, au niveau des consommateurs. Et je pense pas que ça va résoudre le problème tant qu'il n'y a pas justement le développement d'une recherche-action où il y a justement le travail de proximité entre les enseignants pratiquants et les chercheurs. C'est très important. Aussi le problème que j'ai soulevé au début concernant justement le passage de la décentralisation à la centralisation. Donc c'est très important puisqu'il y a des standards internationaux. Donc je pense pas que la centralisation va résoudre le problème l'amélioration des pratiques enseignantes, de l'accompagnement des enseignants dans leur pratiques enseignantes. Merci beaucoup.
Je vais pas être vraiment capable de réagir à votre propre réaction parce que modestement, je suis pas en capacité de dire si le Danemark est en train de faire une erreur ou pas. J'ai pas cette faculté-là. Simplement, effectivement, ils sont rentrés dans une démarche avec l'OCDE. Suite tout à fait clairement aux mauvais résultats PISA notamment, TIMSS je sais pas, mais sans doute également. Donc ça a été effectivement, je dirais, l'élément moteur qui a déterminé le gouvernement danois pour rentrer dans cette espèce d'échange avec l'OCDE. Donc après, dans quelle mesure, je dirais, enfin, de ce que j'ai pu en apercevoir du tout petit bout de ma lorgnette, effectivement, les recommandations de l'OCDE, les ont largement guidés dans les mesures qui sont prises depuis 10 ans. Le premier rapport de l'OCDE sur le Danemark date de 2000, ça veut dire qu'ils sont dans cette logique-là depuis quand même une quinzaine d'années. La recherche, la réforme du lycée en France, on en parle en 2007 et puis on la met en œuvre en 2009. Donc bon, enfin, je veux dire, c'est pas la même ampleur non plus, mais ils sont dans une logique qui n'est pas non plus quelque chose qui est né hier. Ils ont fait un choix en termes méthodologiques. Je trouve que c'est déjà énorme d'avoir fait ce choix et de l'expliciter. C'est-à-dire que ça nous rend, nous aujourd'hui, capables de dire il y a eu des choix qui ont été faits pour avoir une démarche proactive en termes de recherche et développement d'éducation. Il n'y a pas beaucoup de pays dont on est capable de dire, en tout cas, quelle est leur position explicite sur ce sujet-là. Voilà. Donc moi, je suis là pour vous dire, il y a cette démarche qui existe. Je suis pas capable de vous dire si elle est bonne ou si elle est pas bonne ou si voilà.
Après, est-ce que, alors, j'ai peut-être pas tout suivi de ce que tu as dit. Il y a donc cette entité qui centralise effectivement, donc qui attire les critiques. Est-ce que pour autant, est-ce qu'ils ont gardé quand même les CPU, c'est ça ? Les CVU. CVU qui permettaient de faire un lien avec le terrain. Est-ce qu'il y en a encore ou pas ? Oui, donc c'est ça. Donc
les collèges, d'ailleurs, ces collèges-là n'existaient pas sous cette forme-là non plus. C'est-à-dire que c'est une forme nouvelle. Hein, quand je vous ai parlé des collèges postsecondaires qui étaient avant des entités très émiettées, qui ont été, ça s'appelait pas des collèges, d'ailleurs, ça s'appelait je ne sais plus comment. Mais ces collèges sont déjà des regroupements. C'est-à-dire que je vous ai dit, il y a 8 universités aujourd'hui en 2009 et 8 collèges qui sont multisites. Donc ces collèges sont chargés de la formation initiale et de la formation continue des enseignants, et donc à l'interface il y a ces espèces de centres de ressources, effectivement, et la formation des enseignants, un des points forts de cette, parce qu'il y a eu aussi une réforme, une rénovation des contenus de la formation, était vraiment d'introduire une initiation à la recherche auprès des enseignants, qui était une lacune importante du dispositif de formation, et donc notamment une formation axée sur les analyses quantitatives. Bon, voilà. Mais c'est vrai que de toute façon, la vue que j'en ai est forcément réduite parce qu'on a dit l'OCDE, parce que même si le Danemark produit beaucoup d'informations en anglais, ça reste quand même assez peu accessible pour moi, le danois.
Moi, je me demandais s'il y avait des grandes tendances au niveau des méthodes de recherche et des disciplines privilégiées dans la recherche en sciences de l'éducation en Allemagne.
Donc, s'il y avait, pardon.
Des grandes tendances au niveau des disciplines favorisées ou des méthodes de recherche
dans la recherche en sciences de l'éducation en Allemagne.
Et bien là moi, je suis partie de cette grande enquête pour essayer de voir quelles pouvaient être les recherches en matière de formation des enseignants. Donc c'est vrai que ça veut dire que j'ai laissé de côté un pan important. Sans doute, il n'y a pas le cloisonnement qu'on peut trouver, par exemple en France, sur la recherche en psychologie, la recherche en sociologie, etc. Je pense que, au niveau des équipes, il me semble, d'après donc, mais uniquement au travers de l'approche que moi j'ai favorisée, privilégiée, il me semble qu'il y a plus un travail co-disciplinaire. Mais je me demande si on parle même de discipline. Hein, Mais c'est sans doute parce que c'est le caractère de l'enquête en question qui faisait aussi qu'il y avait ce côté interdisciplinaire, interthématique.
Bon, j'ai eu l'impression, quand j'allais en Allemagne, quand même, la philosophie d'éducation avait un poids plus important que chez nous.
Ah, beaucoup, oui. Ça, je peux le dire. Oui, tout à fait, oui. Et quand on regarde les équipes de recherche et les départements dans les universités, c'est bien souvent philosophie et sciences de l'éducation. Ouais. Enfin,
Et de même, moi, j'avais senti en tout état de cause chez nos collègues du DIPF que le choc en gros PISA et puis en gros les virages assez stratégiques qui ont été pris ont fait que quand même ils ont mis l'accent sur les grandes enquêtes comme celle que tu as montrée, qui est très intéressante. Chose que nous n'avons toujours pas d'ailleurs en France.
Ouais. Mais là, ils viennent de la démarrer. Hein.
Oui, mais quand même, nous on n'a même pas démarré, on n'en parle même pas. Hein. Non, mais c'est intéressant de ce point de vue-là. Et par rapport, j'en profite, parce que tu m'as tendu la perche, j'ai pas voulu couper là tout à l'heure, c'était plus intéressant de t'écouter, mais sur le financement, le DIPF, par rapport à nous, ils sont beaucoup plus sur des financements par projet que sur un financement récurrent de base, pour parler dans des termes franco-français. C'est-à-dire pas forcément obligatoirement aller chercher auprès du privé, mais y compris auprès du public, le DIPF, ils financent leurs projets sur commande des autorités publiques, quoi. On leur dit, voilà, vous allez faire un programme sur 4 ans sur tel sujet, on va vous financer pour ce programme-là. Donc, ils payent leur personnel, qui peuvent être tout le temps là au DIF, mais qui, à chaque fois, sont payés 3 ans sur tel programme, 4 autres années sur tel autre programme, etc. Contrairement à nous, on est d'abord recruté comme fonctionnaire, et puis après, on réfléchit à... Enfin, non, je veux dire...
On t'a dit de ne pas être négatif.
Non, je veux dire, on est recruté, et après, effectivement, il y a des programmes et des missions qui s'articulent, mais on n'est pas recruté sur programme. Oui, il y a la LOLF, mais qui ne s'applique pas encore trop. Hein? Non, la LOLF ne s'applique pas énormément. Il se trouve que j'étais il y a 4 jours au ministère même, où ils sont encore à réfléchir sur les indicateurs de la LOLF et à comment ils peuvent vraiment les appliquer. Donc, on remplit des fiches, mais on n'en tire pas toutes les conséquences pratiques encore. Quand même. Oh là.
La loi,
organique des lois de finances. Bon, pour parler très rapidement, parce que là, c'est en gros une loi qui fait qu'au lieu d'avoir les crédits ministère par ministère et avec des formes juridiques qui dataient d'il y a longtemps, là, il y a des programmes transversaux de gouvernement où, par exemple, il y a un programme, allez, hop, de mémoire, programme 150 formation supérieure, tous les crédits de l'État qui vont vers les formations supérieures, que ce soit le financement des étudiants en licence ou tous les dispositifs qui vont avec, l'internationalisation, etc., sont regroupés. Et il y a des indicateurs, une trentaine, je crois, pour le programme 150 de mémoire, qui sont définis. Par exemple, indicateur taux de réussite des étudiants en licence, taux de mobilité internationale, taux de etc., etc., et qui sont examinés pour que les parlementaires y voient plus clair. Et donc, évidemment, tous les acteurs qui participent de ce programme, par exemple les universités, tous les établissements d'enseignement supérieur, etc., doivent, dans leur rapport d'activité, remplir tout ça et dire quelle est leur part de réalisation, rajouter leurs propres indicateurs et tout. Je ne vais pas plus loin parce que c'est un peu complexe, mais c'est un peu ça l'idée.
Ben, je ne sais pas si je pourrais utiliser le terme d'une recherche longitudinale. Vous avez parlé des 5 ans par rapport à la petite enfance et jusqu'à la retraite.
Oui.
J'ai compris d'un coup comme ça que c'est en fait par rapport à leur échec scolaire.
En partie, oui.
Oui, mais je n'ai pas bien compris comment ils pourront faire cette recherche dans le sens où ils vont prendre une partie des enfants de la petite enfance et après retraite.
Alors effectivement, ils vont les suivre sur 5 ans.
Oui.
Et donc ils vont essayer de voir, donc sous forme de questionnaires, etc., donc sur chaque panel.
Oui.
Leur situation par rapport à la scolarité, par rapport au programme scolaire, par rapport à leur réussite, par rapport à leur pour les adultes, donc
Et là, ils vont faire avec les enfants et jusqu'à les adultes à la retraite.
Voilà.
Mais là, ils ne vont pas rentrer dans le domaine de l'enseignement. C'est justement pour savoir dans la population laquelle fait partie de l'éducation, mais l'éducation, celle qui apprend, pas celle qui donne. C'est-à-dire les profs, les enseignants.
Oui, sauf s'ils sont enquêtés au titre d'adultes de 30 à 40 ans. Voilà.
Ouais, parce que là, je suis presque, je crois que je suis toute seule là, mais normalement, on adresse les échecs scolaires. Moi, je parle de chez moi. On n'adresse plus l'échec scolaire au prof seulement, mais aussi à l'élève et aussi tout l'entourage qu'il fait partie.
Ah oui, alors là,
ouais.
Après, là, la grande enquête, je ne sais pas après comment ils vont traiter les résultats, mais donc après, il y a toutes les enquêtes, et moi, c'est vrai que je me suis basée sur les recherches qui étaient faites par rapport à la formation des enseignants, mais dans ce programme de recherche empirique, il y a une foultitude d'autres thématiques qui rentrent. Oui.
D'accord.
C'est vrai que je me suis centrée sur la formation des enseignants, mais il y a d'autres thématiques.
Oui. Merci.